Sunderlight Production.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste pour cet épisode où nous allons parler de coaching et comment améliorer sa forme physique. Le mois de janvier vient de s'écouler et a servi pour beaucoup de mise en route. Mais désormais, il va falloir allonger les sorties. Et pourquoi pas travailler avec un programme. Certains ont déjà un coach avec un programme qu'ils suivent fidèlement avec un objectif en tête. Et d'autres se posent encore des tas de questions sur comment progresser pour être performant. Je précise, j'utilise souvent le mot « performant » dans mes introductions, mais sachez que « performant » veut tout simplement dire se faire plaisir, être bien sur son vélo tout en étant bien dans l'effort pour ne pas subir son propre rythme. J'ai la chance et l'honneur de co-animer ces épisodes autour du coaching avec celle qui est une véritable pionnière, celle qui ouvre une voie dans le monde du cyclisme encore bien trop masculin. Mélanie Briot est la seule femme directrice sportive d'une équipe de National 1 en France. Ancienne compétitrice, Mélanie est également titulaire d'un brevet d'État et d'un master. Elle a su s'imposer dans les pelotons, mais aussi dans les files, mais aussi dans la file des voitures suiveuses. Elle saura sans aucun doute vous donner les clés pour progresser et ne pas perdre du temps dans votre préparation. Nous allons aujourd'hui, à travers cet épisode avec Mélanie, vous partagez des astuces pour améliorer votre forme physique. Comment optimiser votre cadence, votre vélocité? Comment travailler votre force dans le seul et unique objectif de gagner en puissance? Mais aussi comment éviter le surentraînement? Vous verrez que lors de notre conversation, il y a différents témoins qui peuvent alerter l'entourage d'un coureur. Et puis, nous terminerons, comme à notre habitude, avec les conseils du coach, les conseils de Mélanie pour améliorer votre forme physique. Allez, prenez la roue, c'est parti.
Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Mandianini part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer.
Bonjour Mélanie, bienvenue sur ce deuxième épisode, j'espère que tu vas bien.
Oui, très bien, merci.
Bon, en tout cas, je suis ravi à nouveau de t'accueillir sur ce deuxième épisode que l'on fait ensemble sur tous les conseils que l'on peut donner aux cyclistes pour optimiser leur performance. On avait vu lors du premier épisode ensemble qui avait été diffusé, je crois, le dernier jour, j'en suis sûr, le dernier jour de l'année 2020, qui était de comment bien débuter justement la saison 2021 se projetant sur le mois de janvier. Et bien là, on va essayer d'apporter des conseils à tous les cyclistes sur comment améliorer leur forme physique. Alors, peut-être que Mélanie, tu as déjà quelques petits secrets à donner aux auditeurs pour optimiser leur forme physique.
Ah, je sais pas si j'ai vraiment le secret, mais voilà, je pense que il y a plusieurs paramètres à prendre en compte pour vraiment optimiser sa forme. Tels que des paramètres comme le sommeil, je pense que c'est très important. Il faut que c'est un sommeil avec une durée importante, des heures fixes. Voilà, des paramètres comme l'alimentation, diversifier son alimentation, qu'elle soit équilibrée. Un paramètre comme le stress. Je pense que tout ça peut permettre d'optimiser sa forme, mais tout l'environnement aussi, l'entourage familial, notre quotidien, le travail, tous les paramètres qui permettent d'optimiser sa forme. Et il faut que tous ces paramètres soient au vert, en fait, pour vraiment être très performant.
Alors là, tu vois, ne serait-ce qu'en quelques paroles, je suis vraiment ravi de travailler avec toi, puisque tu n'as parlé que de points qui ne sont pas purement sportifs, c'est-à-dire aller rouler, faire des heures de selle. Mais tu as parlé sommeil, c'est alimentation, vrai. Stress, et ça me plaît beaucoup, puisque ça recoupe complètement avec les épisodes que je fais déjà dans la tête d'un cycliste au niveau de la santé, avec Camille Pic, qui est naturopathe. Et on a parlé du sommeil, justement. Et elle, sur le sommeil, elle conseillait, elle nous expliquait qu'on mettait tous, pratiquement tous, très clairement, une alarme le matin pour se réveiller. Et elle préconise de mettre une alarme le soir pour aller justement se reposer. Ah. Donc, ça correspond à ce que tu dis en expliquant d'avoir des routines. Toi, tu préconises une durée de sommeil minimum. Comment tu travailles sur ce côté-là avec tes cyclistes ?
C'est très personnel encore. Je pense que chacun, il y a des lève-tôt, il y a des couche-tard. Il y a des gens qui ont besoin de 5-6 heures de sommeil, d'autres de 7-8 heures. Donc voilà, faut s'adapter. Après, il faut concrètement, il faut essayer de se coucher à heure fixe et se lever à heure fixe. Donc ça, c'est quelque chose d'important dans l'entraînement pour vraiment optimiser. C'est essayer de pas être se décaler. C'est voilà, c'est important, je pense pour avoir de bonnes phases de sommeil.
Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que le sommeil est réparateur. Là-dessus, je pense qu'on ne pourra pas être contredit. C'est vraiment que le sommeil, quand tu fais une grosse journée d'entraînement et que tu as une bonne nuit de sommeil, très clairement, le lendemain, tu le ressens. En tout cas, tu vas surtout le ressentir si tu as une mauvaise nuit de sommeil, ou en tout cas très peu de sommeil. Là, tu vas vraiment sentir les effets justement de ce manque-là. Et c'est pareil sur l'alimentation. Tu nous avais conseillé dans le premier épisode hein, de s'entourer. Hein, d'un nutritionniste pour justement bien calculer ses apports. Est-ce que là également, l'équipe que tu diriges, tes sportifs, tes cyclistes, sont à l'écoute de ça ou est-ce que quelquefois, ils n'ont pas réellement conscience de l'importance de l'alimentation, quelle est l'essence du sportif en fait?
Oui, je pense qu'ils sont encore un peu jeunes et sommeil et alimentation, parce que je pense que c'est en lien pour la récupération vraiment. Mais nous, on travaille avec une nutritionniste, donc c'est Océane Bourdon qui était en master nutrition du sport, donc depuis 2 ans avec l'équipe. Et donc c'est vrai que petit à petit, les coureurs prennent conscience que c'est important. Pas pour optimiser leur performance que pour la récupération notamment, mais voilà, c'est plein de petites choses qui s'additionnent et qui permettent justement d'arriver avec la meilleure forme possible. Donc c'est toutes ces choses et ils commencent, je pense, à en prendre vraiment conscience que c'est très important.
Ça l'est, c'est vrai qu'avec peut-être l'expérience, hein, l'âge venant, tu prends conscience de l'importance de. Les choses très factuelles, c'est-à-dire dans cet épisode, j'aimerais qu'on aborde comment justement optimiser sa cadence, comment optimiser sa puissance, sa force. Les conseils que tu peux nous donner justement par rapport à tout ça, mais aussi, on parle beaucoup de travail, mais aussi éviter le surentraînement. On avait commencé à planter quelques clous dans le premier épisode en expliquant qu'on allait l'aborder. Là, très clairement, on va rentrer sur un mois de février où beaucoup de cyclistes vont partir en stage, où les kilométrages vont augmenter avec soit des épreuves de route qui vont arriver, soit des épreuves de gravel ou même d'ultra-distance qui vont se lancer sur Mars. Donc, il va y avoir une vraie montée en puissance de kilométrage et donc d'heures de selle et d'efforts qui vont être fournis sur le mois de février. Donc, on va essayer justement de vous donner quelques directions sur comment ne pas tomber dans le surentraînement. Commençons par la cadence. Moi, quelque chose qui, quand j'ai commencé le cyclisme, on m'a énormément parlé de ce fameux 90 tours minute. Est-ce que tu peux nous parler de cadence, Mélanie, et comment déjà on le calcule? Parce que j'imagine qu'il y a une incidence aussi sur les manivelles. En fonction des manivelles, le rythme de cadence donne une vitesse qui sera différente. Mais quel exercice tu peux nous conseiller ou tu peux suggérer pour optimiser sa forme physique via l'optimisation de la cadence?
Après, la cadence de pédalage, oui, ça se travaille. Après, il y a des endroits un petit peu plus idéal ou pas, puisque voilà, on n'aura pas la même fréquence de pédalage en montagne que sur un profil plus plat, on va dire. Donc, ça se travaille. On peut améliorer tant sa technique, tant son coup de pédalage, que également donc, la cadence en elle-même. Donc, pour ça, une cadence, c'est vraiment le nombre de tours de pédale par minute, ce qu'on appelle.
C'est la vélocité en fait, hein, tout simplement la vélocité que peut avoir le cycliste.
Voilà, c'est ça, la vélocité, ce qu'on appelle. Donc, après, il y a plusieurs petits exercices à travailler, comme voilà, on conseille souvent 90 tours minute sur une séance, sur une sortie simple, sans exercice. C'est vrai que c'est le chiffre référence. Après, il y a des exercices, voilà, où on va plus travailler. On va partir sur le point un petit peu suivant. Mais si on veut travailler en force, on va travailler à des cadences plus basses. Et si on veut vraiment travailler l'hypervélocité, voilà, pour améliorer sa technique et aller tourner les jambes beaucoup plus vite, par exemple en montagne, ça peut être bénéfique. Après, c'est à chacun, c'est pareil, c'est à chacun son coup de pédale, à chacun sa façon de voir les choses. Mais voilà, on peut travailler en hyper vélocité à 110, 120 tours minute. Donc, c'est vraiment des exercices spécifiques qu'on peut travailler également sur home trainer. Où, voilà, c'est facile aussi de travailler sur home trainer la vélocité. Et il y a des petits exercices comme l'unijambis qu'on travaille dès le plus jeune âge, même dans les écoles de vélo. C'est vrai qu'on... Je m'en souviens encore, on faisait l'unijambis quand on était jeune. Donc, mais voilà, c'est des petites choses à mettre en place pour optimiser sa cadence.
Alors, c'est vrai que la cadence, hein, c'était le premier point que je voulais aborder. Et c'est pas innocent, c'est qu'effectivement, sans cadence, sans vélocité, il est très difficile de prétendre à être performant, que ce soit sur la puissance et la force. Hein. Je pense que c'est le premier élément à travailler. Et comme tu l'as dit, ce que tu as appelé l'unijambiste, moi j'ai pas fait d'école de cyclisme à titre perso, parce que j'ai commencé le cyclisme sur le tard, j'avais 18 ans, ma première licence. Et quand je partais en stage, notamment en Italie, j'ai découvert que les Italiens, en fait, avaient un pédalier. Ils avaient un pédalier où ils pouvaient arrêter arrêter leur pédalier, mais d'un côté. C'est-à-dire qu'ils avaient un système de clips ou de crochets et qui faisait qu'il y avait leur jambe gauche, par exemple, restait en bas, la manivelle restait en bas, et l'autre jambe, ils pouvaient la tourner. Et après, ils changeaient de jambe, donc quelque chose qu'on n'avait jamais vu très clairement. Moi, je n'avais jamais vu en France. Et ça, c'est très, très important, équilibrer sa puissance entre sa jambe droite et sa jambe gauche, puisqu'on a tous une jambe qui est naturellement plus forte que l'autre, et d'avoir un équilibre au niveau de sa force, de sa cadence et même de sa vélocité entre les deux jambes, va faire que l'ensemble est homogène. Alors en fait, effectivement, on parle souvent de 90 tours minute, hein, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la cadence de pédalage idéale se situe entre 80 et 100 tours minute, parce qu'on estime que c'est la cadence idéale justement pour produire la puissance la plus intéressante. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours ces 90 tours minute qui sont dans la tête de tous les cyclistes. Et si on parle de puissance, donc tu nous as expliqué, hein, si je résume, que la cadence, il y a différents exercices qui permettent de la travailler, que ce soit à l'extérieur ou sur home trainer, et là-dessus on est en phase tous les deux, c'est que c'est la base. Commencer par travailler sa cadence de pédalage, surtout sur les mois dans lesquels on est, va garantir une meilleure saison que si on ne travaillait pas. Et sur la puissance, quel exercice, Mélanie, tu pourrais nous conseiller à nous cyclistes de faire sur ce mois de février pour augmenter notre puissance?
Bah, faut savoir que la puissance, c'est la résultante de la force fois la vélocité. Donc, pour être puissant, il faut développer sa force, mais également sa vélocité, donc par le biais de la cadence. Donc, voilà, des petits exercices de force donc, qui peuvent être faits en salle de musculation. Ouais, y a des coureurs qui complètent pour être plus puissants en travail en salle de muscu ou sur un vélo avec des exercices... en bosse par exemple, en mettant le gros plateau et en ayant une cadence de pédalage justement beaucoup plus basse à 50-60 tours minute, en gardant par contre un cardio très bas également, voilà, pour travailler de la force sous maximale. Donc le but est vraiment de travailler cette force en endurance, où on peut aussi travailler la force par des sprints, par le biais de sprint, force maximale par le biais de sprint. Donc là, c'est des petits exos de force à faire durant voilà la période hivernale là, où qui permettent aussi de varier l'entraînement et d'améliorer donc sa puissance, qui est vraiment la résultante. Donc travailler d'un côté la force par le biais de cadence très basse et la vélocité par le biais de cadence à 110-120 tours minute. Voilà comment un petit peu travailler
Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'effectivement, naturellement, moi, je t'ai emmené de la cadence à la puissance et tu as tout de suite recadré en expliquant que la puissance était la résultante de la cadence et de la force. Donc avant de raisonner « je vais augmenter ma puissance », il faut déjà travailler et sa cadence et sa force. Et tu nous as donné les exercices nécessaires qu'il fallait faire. Mais est-ce que tu peux, un cycliste aujourd'hui qui veut s'entraîner, qui se dit « je vais moi-même me faire mon plan d'entraînement », je crois qu'il y a aussi des erreurs à ne pas commettre, hein, c'est-à-dire mélanger dans le même entraînement et un travail de force et un travail de vélocité ou d'intensité. De mémoire, je crois qu'il y a des choses quand même qu'il ne faut pas mélanger et des choses qu'il faut respecter.
Oui, il faut respecter. Après, il ne faut jamais oublier que la force, quand on la travaille à 50-60 tours minute, il faut aussi la lier à l'hypervélocité. Donc, certains entraîneurs la travaillent ensemble, associés. Voilà, par des exercices de 3, 4 minutes à 5 minutes en force, donc à 50, 60 tours minutes, puis associé à 1 minute par exemple en hypervélocité. Donc ça, c'est des exercices qui se répètent plusieurs fois. Certains entraîneurs le mettent vraiment dans le même entraînement. D'autres travaillent vraiment des séances spécifiques, uniquement cadence, uniquement unijambiste ou vraiment que force. Ça, c'est vraiment propre à chacun. C'est des méthodes d'entraînement que...
Tu nous parlais tout à l'heure, dans une de tes explications, tu parlais de musculation. Aujourd'hui, est-ce que tu préconises à tes cyclistes que tu encadres d'avoir des séances de musculation en salle tout au long de l'année pour justement, alors pas forcément aux mêmes intensités, hein, mais d'avoir toujours cet exercice de travail en musculation en salle, à faire des squats, à soulever de la masse pour gagner de la force? Ou est-ce que tu le préconises plus uniquement pour cette période hivernale?
Non, faut le faire vraiment toute la saison. C'est vrai qu'on a tendance, les coureurs ont tendance à délaisser dès l'apparition des courses, en fait, la muscu, enfin le renforcement, le gainage. Tout ça, c'est souvent délaissé à l'approche des compétitions. Et malheureusement, il faut vraiment le conserver parce que sinon, ça n'a aucun intérêt de le faire 3 mois. Et on sait très bien que bah, derrière, il y a aucune, les adaptations sont complètement perdues. Donc vraiment le faire toute l'année, même si c'est quelques rappels, mais il faut pas hésiter à le conserver même dans son entraînement, dans son plan d'entraînement, et vraiment à le planifier comme une séance
à part entière.
Comme
une séance à part entière.
C'est ça.
Donc c'est vrai qu'on parle de cadence, de puissance, de force, de musculation. Aujourd'hui, un sportif, alors bien évidemment, on est tous différents, chacun est particulier, mais tu estimes à partir de combien d'heures, je vais dire, combien d'heures d'entraînement ou d'heures de pratique par semaine que l'on est capable d'être dans le thème que l'on aborde sur cet épisode numéro 2 ensemble sur le coaching, qui est améliorer sa forme physique. Tu penses qu'on, quand on déjà en couvre tout ce que l'on vient de voir, c'est à partir de quoi? De 5 heures, de 8 heures de sport par semaine, de 10 heures? Est-ce que tu saurais évaluer, de par ton expérience, à partir de combien d'heures de pratique on est capable de franchir un step et d'augmenter sa forme physique, en tout cas de l'améliorer?
Tout dépend à quel point on part. Voilà, tout dépend à quel sportif on s'adresse. Je pense qu'il y a des personnes qui font pas faire forcément beaucoup de sport, donc ils vont améliorer rapidement leur forme physique. Mais voilà, des coureurs élites, je pense que voilà, il faut 10-12 heures d'entraînement par semaine pour voir une amélioration significative. Oui.
C'est vrai qu'aujourd'hui les coureurs élites sont des, quasiment, on peut le dire, hein, des semi-professionnels pour certains, ont beaucoup d'heures d'entraînement. Alors eux, pour avoir roulé avec certains, travaillent quand même, même s'ils sont passés par ce travail de cadence, de puissance, de force, travaillent quand même énormément en intensité. Tu saurais nous partager justement quelques chiffres d'intensité sur lesquels ces sportifs de haut niveau peuvent aller?
Bah, je pense qu'un coureur voilà, élite, il va s'imposer des séances, donc on va parler de force-vélocité, donc ça c'est vraiment un peu plus orienté l'hiver, mais à l'approche des compétitions, et il va s'imposer des séances de puissance maximale aérobie, donc à très haute intensité, ou vraiment pour préparer la compétition, il va en faire 2 fois par semaine quasiment pendant 3-4 semaines en fonction de l'objectif. Mais oui, c'est des séances très, très dures aussi à supporter, tant mentalement que physiquement, puisque les intensités sont très élevées.
C'est ce que tu dis est très intéressant sur le côté mental, puisque je pense que beaucoup négligent justement ou n'ont pas pleinement conscience de la difficulté mentale que les coureurs de haut niveau peuvent s'infliger à aller chercher des hautes intensités. Il faut vraiment être prêt mentalement, ne serait-ce qu'à l'entraînement, hein, puisque ça se gagne à l'entraînement, on le sait, ça serait trop simple sinon. Mais les intensités réalisées, il faut vraiment mentalement avoir un vrai objectif pour se lancer dans ces séances-là qui font aussi mal physiquement que mentalement, en tout cas qui te marquent énormément, ça c'est clair. D'où le repos derrière, le sommeil, la récupération, l'hydratation, l'alimentation et tout l'écosystème qui va autour du coureur.
Ouais, je pense qu'il faut être prêt prêt mentalement en fait à faire cette séance. C'est ça aussi d'avoir un plan, c'est de permettre de prévoir dans sa tête en amont que voilà, mardi on a une séance à très haute intensité et qu'il va falloir être prêt, qu'il va falloir voilà, être dans les meilleures conditions pour pouvoir faire cet entraînement qui, on le sait, va être très dur. Et il y a des jours où on n'est pas forcément bien, on n'est pas forcément dans des bonnes conditions. Il y a eu des choses qui sont passées comme dans toute vie, des petits couacs d'une journée qui peuvent avoir une incidence sur cet entraînement. Donc voilà, je pense qu'il faut. En fait, le plan d'entraînement sert aussi à s'y préparer, je pense.
Et on parlait aussi, on en a parlé dans le premier épisode, on a commencé à l'introduire, mais là on va vraiment échanger sur ça. Quel surentraînement ? C'est vrai que on a abordé les heures d'entraînement, la vélocité, puissance, force, optimiser sa forme physique. On avait également vu dans le premier épisode que l'on avait fait ensemble sur le fait qu'aujourd'hui beaucoup de sportifs, beaucoup de cyclistes notamment se comparent via les réseaux sociaux et ont tendance quelquefois à en faire un peu plus. Pas forcément de la meilleure des manières. Et est-ce que toi, tu aurais, je ne sais pas, une indication, un conseil par expérience à nous partager, à nous donner sur quelques indicateurs qui pourraient nous faire dire ou qui pourraient faire dire à un cycliste « Ah, attention, là, je m'oriente vers un surentraînement. » Est-ce qu'il y a comme ça quelques signaux ?
Oui, déjà une baisse des performances, je pense. Il y a des signaux de fréquence cardiaque. Faut pas oublier que un sportif de haut niveau se doit de prendre régulièrement son pouls au repos. Ça peut être des signes. Il y a des plateformes maintenant, notamment Nolio, avec qui Dinan Sport Cycling travaille, qui sont liées à Aptool, donc qui permet de voir la variabilité cardiaque. Et donc, ça permet quand même de donner un état de forme ou un état de méforme, justement, et de voir un petit peu de situer où en est le coureur dans sa charge d'entraînement. Donc, faut pas hésiter à utiliser toutes ces applications qui permettent, cette technologie justement, qui permettent de voir certains indices. Ça peut être une perte de poids, ça peut être... Il y a plein d'indices, des troubles du sommeil, plein d'indices, je pense, dans le surentraînement, ou pas d'ailleurs, puisque je n'ai jamais vécu, je n'ai jamais eu d'athlètes qui ont eu un surentraînement, mais je pense qu'il y a plein de petites choses à décrypter, je pense, dans un surentraînement.
Moi, je peux en parler, hein, puisque je l'ai connu en étant élite. C'est que, en fait, je voulais tellement bien faire que j'allais m'entraîner. En fait, je suis arrivé aux premières courses de fin février, début mars, totalement cramé, puisque j'étais tellement motivé et je voulais tellement faire une belle saison que j'avais commencé à partir de novembre ou décembre à rouler, quel que soit le temps, et à m'infliger des séances d'intensité, donc d'intervalle. Des premiers janvier, je me souviens avoir été roulé sous la neige. Et en fait, tu perds, en repensant à cette période-là de ma vie, j'ai un goût un peu amer qui se dégage dans ma bouche, en fait, tellement c'était difficile à vivre, puisque effectivement, une perte de poids considérable, parce que tu es tellement motivé que tu t'entraînes, mais aussi tu fais attention à ce qu'il y a dans ton assiette, voire tu réduis même les quantités, parce que tu veux être très, très affûté. Et tu es en hiver, tu vois, tu n'as même pas de course, mais tu es déjà dans ce système-là. Donc, j'avais une perte de poids qui était importante. Je n'ai jamais été aussi maigre. Hein, je fais 1,91 et je pesais 72 kilos. Voilà, là, actuellement, je suis à peu près en poids de forme à 79, donc tu vois l'écart. Et puis surtout, une baisse de performance, c'est-à-dire que même mes collègues d'entraînement, avec qui je m'entraînais depuis plusieurs années, hein, donc qui m'avaient eux aussi permis d'arriver au niveau où j'étais et d'arriver en élite, en fait, sur du plat, dès qu'il voulait un peu rouler, je sautais. Donc, il m'est arrivé de couper des entraînements, de faire demi-tour, parce que je ne pouvais plus suivre, en fait. Et à ce moment-là, c'est là que la structure est importante, parce qu'on parle de surentraînement, mais c'est comment les gens qui t'entourent au quotidien détectent ça, te parlent et t'accompagnent. Parce que ça peut être, un surentraînement peut être associé aussi très souvent à, j'allais dire, la solitude du cycliste, c'est pas forcément ça, mais à un manque de communication qui va autour. Parce que dès qu'il est détecté, faut pas hésiter à en parler, je pense, et accompagner. En tout cas, moi, c'est l'expérience que je peux avoir, puisque ça m'a complètement, mais ma saison était terminée avant même d'avoir débuté, en fait.
Ça ne m'étonne pas. Je pense qu'il faut après, ensuite, avoir une grosse phase de récupération qui est relativement longue.
Oui, il faut déjà en prendre conscience, et moi j'en parle facilement maintenant, mais sur le moment j'en prenais pas conscience, j'essaie de trouver d'autres raisons, un virus, une infection, mais tu te voiles la réalité en fait, voilà. Et donc c'est pour ça que la communication est très très importante, et il faut absolument l'éviter en détectant toutes ces petites choses qui se passent, mais on avait peut-être à l'époque dont je parle, peut-être pas autant de technologie qu'aujourd'hui, et certainement maintenant on peut peut-être contrôler plus de choses. Donc en tout cas, voilà, c'était ce que je voulais te parler autour du surentraînement. Ouais.
Ouais, on peut adapter un peu plus, maîtriser, contrôler la charge d'entraînement un peu plus avec toutes les plateformes et puis toutes les données qu'on a. Donc c'est vrai que c'est un peu plus facile. La technologie aide, on va dire, à contrôler ça. Après, voilà, maintenant, l'entraîneur peut faire des erreurs, l'athlète peut faire des erreurs, mais c'est pour ça qu'il faut bien périodiser, je pense, par bloc, avec des travails, vraiment respecter l'alternance entraînement, repos, et c'est le plus difficile à faire, hein, de toute façon, c'est pour ça qu'il faut bien suivre son plan d'entraînement, je pense.
Et on parle de plan d'entraînement, de forme physique, de technologie aussi. Comment est-ce que tu suis tes coureurs au niveau data ? Est-ce que tu as un logiciel avec lequel tu travailles régulièrement et tu analyses les données de tes coureurs ? Comment est-ce que ça se passe pour toi au niveau, au plus haut niveau cycliste français ?
Eh ben, on est maintenant depuis cette année avec la plateforme Nolio. Donc, on travaille en collaboration donc avec les trois entraîneurs de l'équipe. Et donc, tous les coureurs sont sur cette plateforme. Et doivent donc mettre tous leurs entraînements, mais également le ressenti sur la séance. Il n'y a pas que directement la liaison Garmin. Enfin, l'intérêt est également d'avoir leur ressenti. On peut y ajouter justement le pouls au repos. Voilà, ça donne des données, des courbes, et ça permet quand même de suivre. Suivre les coureurs, quoi, de plus près. Et c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas ça, et je pense que c'était beaucoup moins facile de gérer la charge d'entraînement d'un coureur.
Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu peux, avec toutes les différentes plateformes, les différents logiciels, être vraiment beaucoup plus à l'écoute du coureur, parce que comme tu l'as très justement dit d'ailleurs, Mélanie, il y a les datas, mais il y a aussi le ressenti du coureur.
Oui, tout à fait, le ressenti du coureur. Les données, c'est bien, mais je pense que voilà, comment savoir si la séance a été réellement dure pour le coureur, qu'elle soit physique ou mentale, je reviens encore là-dessus, mais... Mais voilà, ça permet d'avoir une idée sur la perception de l'effort du coureur, et c'est très important. Je pense que maintenant, on travaille avec cette méthode-là, et c'est vraiment un plus pour nous.
On arrive sur la fin du podcast. Mélanie, est-ce qu'il y a des conseils que tu voudrais partager ou des astuces que tu voudrais donner aux auditeurs ?
Je pense que pour vraiment optimiser sa forme physique, c'est plusieurs paramètres, tant un protocole de récup sur le sommeil, avoir une alimentation en adéquation en fait avec sa charge d'entraînement, par exemple, puisque ça peut être un lien aussi avec un surentraînement, puisque ça peut être quelque chose qui a été inadapté. Donc voilà, vraiment essayer de, pour optimiser sa forme physique, d'essayer de mettre toutes les chances de son côté, et en ayant tous les paramètres au vert, on va dire.
Bon, c'est parfait. En tout cas, je pense que les auditeurs qui nous écoutent vont avoir, en tout cas, ont toutes les clés pour améliorer leur forme physique sur ce mois de février, puisqu'au mois de janvier, on leur avait donné toutes les astuces pour bien débuter la saison. Et je leur donne rendez-vous, et je te donne rendez-vous également, très rapidement, dès le mois prochain, pour qu'on aborde d'autres thèmes et pour les accompagner à être mieux sur leur vélo, pas forcément plus performant, parce que la performance, quelquefois, est juste dans la prise de plaisir, mais en tout cas, leur donner tous les éléments pour qu'ils passent un bon moment sur le vélo. Je te dis un grand merci, Mélanie, et puis je te dis également à très bientôt. Merci beaucoup.
À bientôt, merci.